L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours. Bonjour et bienvenue dans cette émission d'actu sur un plateau, l'émission qui met en avant les actualités locales. Alors on va essayer d'éviter de parler du confinement, même si c'est un vaste sujet. On vous dira juste qu'on s'est évidemment adapté aux restrictions sanitaires, c'est-à-dire que les invités qu'on reçoit d'habitude sur ce plateau, on les recevra par téléphone. Alors moi je suis dans le bocal du studio d'enregistrement et Brice à la technique, donc les distances sont respectées. Voilà. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux invités. En seconde partie d'émission, ce sera Sabri Kibli, qui est un artiste photographe qui oriente son travail sur la thématique de la nature pour sensibiliser sur l'éco-responsabilité, la biodiversité, etc. Il est actuellement en itinérance sur le territoire des Grands Causses et nous recevons tout de suite le premier invité de cette émission. L'invité de l'actu associative. Jean-Claude Ostruy du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Cosnard, que nous avions reçu il y a quelques mois déjà concernant les difficultés que rencontrait le centre. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Alors, merci d'être avec nous.
Merci déjà de me recevoir aussi.
Alors, le Centre de Sauvegarde a près de 30 ans maintenant, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, oui, 31, 32 ans selon, puisqu'avant c'est une association qui existait elle aussi depuis une quinzaine d'années, qui a créé ce centre de sauvegarde. Cette association s'appelait Nature à Zéro.
Voilà, et c'est un petit peu ça qui a permis donc la création de ce centre. Est-ce que vous pourriez revenir sur les objectifs du centre au quotidien ?
Alors. En fait, la finalité de ce centre est très, très, très simple. Lorsque l'association Nature Aveyron, qui s'occupait au sens large de l'environnement sur le département, existait, nous recevions de plus en plus d'animaux sauvages parce que les gens nous connaissaient et qu'on s'occupait de l'environnement. Donc, à un moment donné, il est devenu logique de créer une structure qui nous permettrait de mieux traiter ces animaux. Vous savez, à l'époque, moi, je recevais, par exemple, des hérons. Eh bien, ils étaient dans la baignoire de ma salle de bain. Donc, c'était pas évident. Et à partir de là, on a décidé, au niveau de l'association, de créer le centre de sauvegarde qui après, est devenu autonome une dizaine d'années plus tard.
D'accord, donc c'est-à-dire que finalement, cette association Nature Aveyron, dont vous êtes le président, elle n'existe plus ou elle existe encore ?
Alors, c'est une association qui, malheureusement, n'existe plus. Je le regrette, mais bon, il y a d'autres associations environnementales qui se sont créées sur le département, heureusement, puisqu'à l'époque, effectivement, nous étions à la fois les seuls et les premiers sur le département. Lorsque nous l'avons créé, c'était dans les années 1980.
Et alors, pour reparler un petit peu du centre de sauvegarde, quelles sont les espèces que vous recueillez ?
Alors, le centre de sauvegarde, effectivement, on reçoit des animaux sauvages en difficulté, hein, que ce soit des animaux blessés, des animaux abandonnés par leurs parents. Il y a tous les cas de figure sont possibles. Et ces animaux, on reçoit aussi bien les oiseaux que les mammifères. D'ailleurs, on reçoit de plus en plus de mammifères, en particulier cette année, on peut dire que ça a été l'année des hérissons, puisque nous en avons reçu 70-80 depuis le début de l'année, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est une année qui est très particulière par rapport à la reproduction de certains animaux. D'habitude, les hérissons, on les reçoit en octobre. Là, on les a eus au mois de mai-juin. Alors, est-ce que c'est lié à tous les problèmes de la crise sanitaire ? Ça, on ne sait pas, mais effectivement, ou au climat, tout simplement. Toujours est-il qu'on a reçu beaucoup de hérissons et puis après on reçoit aussi beaucoup de rapaces. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont, on va dire, des citadins qui, nous connaissant, récupèrent des animaux à l'intérieur des villes. Je pense à beaucoup de passereaux, bien sûr. Je pense aussi à des chauves-souris, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui, à l'intérieur des villes, font appel à nos services.
Et alors, quand vous dites que vous recueillez des animaux, est-ce que ce sont des animaux qui rencontrent des difficultés suite à l'activité humaine ou pas forcément ?
Alors, on va dire qu'à 80% c'est le cas. Si on prend par exemple lorsqu'on fait nos bilans en fin d'année, on s'aperçoit que 30-40% des animaux qu'on a reçus sont des victimes de la route.
Donc la route, c'est le
premier vecteur de récupération d'animaux chez nous. Le deuxième, ce sont des animaux qui sont récupérés à tort par les gens qui croient bien faire parce qu'ils les croient abandonnés à l'époque des reproductions. Vous savez, un animal sauvage, lorsqu'on peut l'approcher, c'est un bébé animal, mais les parents sont là, pas très loin, ils surveillent, mais ils n'osent pas, eux, s'approcher. Donc les gens croient qu'ils sont abandonnés, très souvent, à tort, et ils les récupèrent pour nous les amener. Donc là-dessus, on a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire pour éviter de récupérer des animaux qui finalement n'en ont pas besoin. Et puis après, il y a des causes très diverses. Il y en a qui tombent dans des cheminées, il y en a qui se font attraper par des prédateurs, des chats en particulier dans les villes, et d'autres qui tombent dans des puits, dans des citernes, dans des piscines. Vous savez, il y a tous les cas de figure, finalement.
Et alors, justement, en ce moment, c'est un petit peu la période de la chasse. Est-ce que vous récupérez des animaux qui ont été blessés et peut-être qui ont été épargnés, on va dire, qui ont réussi à survivre ?
Alors ça aussi, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors là, on fait là aussi des statistiques. On va dire que sur l'Aveyron et sur l'Aveyron et sur la Lozère, dans la proportion d'animaux qu'on reçoit et qui sont des victimes de braconniers, je vais dire, il y en a finalement assez peu. C'est vrai que dans les départements du Midi, comme l'Hérault ou le Gard, où la pression de chasse est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de braconniers. Nous, on peut dire que finalement, ça représente à peine quelques pourcents. C'est pas énorme, et c'est vrai que moi qui ai un petit peu de recul, donc plus de 35 ans, on peut dire que les mentalités ont évolué, même s'il y a encore des gens qui tirent sur tout ce qui bouge. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et une meilleure connaissance des animaux qui fait que on ne tire plus sur n'importe quoi, parce qu'on sait très bien que dans la plupart des cas, les animaux sauvages sont nos auxiliaires.
Et alors, quel type de soins vous pouvez apporter aux animaux au sein du centre ?
Quel type de soins ? Alors, lorsqu'on reçoit un animal, on fait un bilan d'entrée. À partir de là, s'il s'agit d'un jeune et qu'il faut se substituer aux parents, on va essayer de l'éduquer en faisant de notre mieux pour leur apprendre ce que leur auraient appris leurs parents, et en faisant de notre mieux aussi pour les relâcher dans des conditions qui vont leur permettre de survivre. S'il s'agit d'animaux qui sont effectivement blessés et qui ont besoin particulier de soins importants, alors là on fait appel à des vétérinaires. Sur Millau, nous avons une clinique vétérinaire qui s'appelle les Acanthes, qui accepte de traiter nos animaux, on va dire, à prix coûtant et qui ne font pas payer leur travail. Donc ça, c'est très appréciable. Et on a absolument besoin d'eux lorsqu'il s'agit de faire des interventions chirurgicales ou des radios ou des anesthésies. On ne peut pas, évidemment, nous faire ce genre de choses. Nous ne sommes pas des vétérinaires.
Donc c'est-à-dire que le centre de sauvegarde a une équipe au sein du centre qui s'occupe là des animaux, mais pour ce qui est soins, ça va être plutôt en extérieur.
Alors si, ce sont des soins importants. Des soins importants, ils sont donc, comme je viens de vous le dire, tout ce qui est anesthésie, tout ce qui est intervention chirurgicale, tout ce qui est radio va se faire chez le vétérinaire. Et lorsque les interventions, s'il y en a, ont été réalisées, c'est nous effectivement après qui en quelque sorte faisons les aides-soigneurs ou les infirmières, puisque les vétérinaires délèguent une bonne partie après de ces interventions, les renouvellements de pansements, les traitements parfois avec des médicaments, c'est nous qui les faisons bien sûr. Donc c'est un partage par rapport à ces soins, mais la plupart des soins consistent effectivement des nourrissages. Je pense en particulier, je vous ai dit qu'on recevait beaucoup de hérissons, les hérissons lorsqu'on les reçoit souvent ce sont des hérissons qui sont naissants, qui ont à peine quelques semaines, donc il faut leur donner le biberon. Ça, ce sont des activités de soins aussi, et c'est bien entendu nous qui les réalisons avec beaucoup de constance, puisque dans des cas comme ça, il faut aussi intervenir parfois la nuit.
Et oui, parce que la plupart des animaux sauvages, ce sont aussi des animaux nocturnes.
Oui, non seulement ce sont des animaux nocturnes, je pense effectivement aux hérissons, mais en plus il y a nécessité lorsqu'ils sont tout petits, de les nourrir régulièrement, toutes les 3 heures par exemple pour les hérissons.
Et alors comment ça se passe au sein de l'équipe justement? Comment vous arrivez à générer, enfin je veux dire, qui travaille au sein du centre pour le moment?
Alors le centre de sauvegarde. Disons que actuellement, le centre de sauvegarde fonctionne à 80% au bénévolat. D'accord. 20% restant, ce sont soit des salariés, puisque on en parlera peut-être, mais nous avons réussi au bout de nombreuses années à obtenir l'aval des collectivités, d'ailleurs de tous bords politiques, je tiens à le préciser, puisqu'il y a une petite polémique sur le journal de Millau, là. On pourra peut-être en reparler.
Mais on va
donc
en parler juste
de
après.
De tous bords politiques, les collectivités, que ce soit conseil régional, conseil général, communauté de communes de Millau, celle de Sainte-Afrique ou mairie de Millau, les collectivités donc qui nous aident. Et dans ce cadre-là, on a réussi à atteindre l'objectif qu'on se fixait depuis 3 ans, à savoir créer un emploi et demi sous la structure pour que je puisse peut-être un jour prendre ma retraite, parce que je suis pas tout jeune, et que surtout notre action en faveur de la faune sauvage puisse continuer et soit pérennisée. Mmh. Voilà, donc pour le fonctionnement, on a donc cette ossature qui est indispensable et qui est constituée d'un poste et demi de salariés. Et après, c'est 80% de bénévolat. Soit les gens qui récupèrent les animaux dans la nature, soit les gens qui nous les transportent, soit toutes les personnes qui viennent au centre nous aider à pratiquer les soins, comme vous disiez, ou à nourrir les animaux. Il faut savoir que l'été, nous sommes ici 7-8 en permanence et nous avons beaucoup de mal à assurer l'ensemble des tâches. Et j'ai oublié un élément important aussi, ce sont les stagiaires qui viennent chez nous et qui sont issus de l'école qui prépare des métiers de l'environnement. Ces stagiaires, bien entendu, participent à l'activité de l'association et sont aussi un apport non négligeable dans le fonctionnement de la structure.
Donc je reviens juste un petit peu par rapport, donc vous dites que c'est quand même 80% de bénévolat, c'est-à-dire que une personne qui n'a pas forcément de compétences peut venir et s'impliquer dans le centre.
Tout à fait, c'est ce qui se passe. Lorsque les gens viennent ici, on a affaire à des gens motivés, c'est évident. Et donc il suffit qu'on les encadre un petit peu et qu'on leur montre ce qu'il y a à faire. Et puis en général, tout se passe très bien et ils deviennent, on va dire, opérationnels assez rapidement. Et après, c'est du bénévolat, donc on met en place des plannings pour pouvoir assurer quand même la totalité des tâches que nous avons à faire. Et à partir de là, ils peuvent venir quand ils veulent, si c'est prévu. Et ces gens-là, nous avons des gens qui sont des gens de la région, voire de Millau, voire des communes voisines, ou parfois même des gens qui viennent pendant une semaine, 15 jours en été, qui sont installés dans les campings ou dans des gîtes ou chez des amis et qui peuvent rester jusqu'à 15 jours, 3 semaines à faire du bénévolat chez nous. Ça arrive et bien entendu on remercie toutes les personnes qui participent à notre activité.
Alors voilà, je vais parler un petit peu du sujet donc qui fait qu'on vous a vu dans plusieurs médias locaux. Donc bon, nous on vous avait reçu il y a quelques mois lors d'un précédent plateau parce que donc le centre a rencontré quelques difficultés. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette période ?
Alors c'est vrai, oui. Effectivement, nous avons depuis maintenant 3 ans lancé une campagne qui consistait à motiver les collectivités pour qu'on puisse pérenniser l'activité. C'est-à-dire que ce centre de sauvegarde puisse, comme partout en France, fonctionner de façon régulière avec au moins une personne, voire 2 personnes salariées, qui soient en quelque sorte les moteurs de notre action. Et donc ces démarches, nous les avons entreprises en 2017, on a commencé, hein, donc c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de... Et puis ça a été compliqué parce qu'il a fallu justement expliquer à l'ensemble des collectivités que notre action était une action d'intérêt général, que ça concernait la biodiversité, tout le monde. Et puis au fil des ans, on a On a avancé tout doucement, ça n'a pas été très facile. On s'est appuyé sur l'ensemble de ces collectivités. Il y a eu des réunions, nous avons envoyé des centaines de courriers. Nous avons même mis en place une pétition, à la fois par Internet et puis une pétition. On a fait signer des centaines de feuillets sur la commune de Millau et les communes limitrophes. Toujours est-il que cette pétition, il y a à ce jour plus de 10 000 signatures, et elle est toujours d'actualité, puisque même si nous avons fait de gros progrès, nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos objectifs. Alors c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et puis finalement, on est arrivé à une échéance. C'est pas nous qui avons choisi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans les médias, nous avons pas choisi la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 pour arriver à concrétiser notre action. C'est pas nous qui avons choisi le calendrier, ce sont les collectivités. Ce qui est certain, c'est que dans l'année 2019, les choses se sont un petit peu accélérées. Sous l'impulsion notamment du maire de Millau, M. Saint-Pierre, l'ensemble des collectivités se sont réunies et ont enfin décidé de nous venir en aide.
Voilà.
Une aide qui a été concrétisée par la mise en place d'un chargé de mission, qui était M. Sébastien Pouvol, qui est le directeur adjoint du parc naturel régional des Grands Causses. Donc, il avait été décidé que nous réaliserions une convention qui permettrait effectivement de pérenniser notre fonctionnement et d'obtenir les aides indispensables pour cela. Donc ça a été un petit peu acté. C'est vrai que le processus s'est accéléré avec l'arrivée des élections, mais encore une fois, c'est pas nous qui avons choisi le calendrier, puisque depuis 3 ans, nous nous battions pour cela. Ce qu'il faut dire, c'est que donc en janvier, finalement, l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire le conseil régional, le conseil départemental, la commune de Millau, la communauté commune de Millau et la communauté de communes de Saint-Affrique, s'étaient mis d'accord pour nous aider et donc se sont engagés à nous fournir sur l'année 38 000 euros, tout ensemble. Alors ça, c'est un petit peu... c'est effectivement...
Donc c'est
ça
super.
Correspondait effectivement à ce que nous pouvions faire pour atteindre nos objectifs, et nous avons accepté, bien sûr. Ceci dit, l'attribution de ces sommes était quand même liée à la mise en place d'une convention. Cette convention, ça a été difficile de la mettre en place. Et pour que cette convention soit signée, il était indispensable que les collectivités, mairie de Millau, communauté de communes de Millau et communauté de communes de Saint-Affrique, délibèrent. Alors, certaines de ces instances ont délibéré avant les élections municipales, d'autres ne l'ont pas fait. Et ça a posé de gros problèmes. Ça a posé de gros problèmes parce que cette convention, qui est une convention qui regroupe l'ensemble des partenaires, et ça, je tiens à préciser que c'est toujours le cas, puisque... nous avons sur le journal de Millau un article de M. Neyrac où il a raconté pas mal d'erreurs. Il est dit par exemple que nous avons signé une convention uniquement avec la mairie de Millau. C'est complètement faux. C'est toujours la même convention qui a été mise en place donc par M. Neyrac et M. Saint-Pierre, que d'ailleurs je remercie pour leur action. Hein. C'est pas parce qu'il écrit un petit peu n'importe quoi M. Neyrac que je le remercie pas, parce que je sais que au fond de lui, il nous a toujours soutenus et donc je tiens à le remercier quand même. Mais ceci dit, cette convention, c'est toujours la même. Et il faut que tous les acteurs la signent. Donc, si M. Saint-Pierre m'avait proposé de la signer à la mairie il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, je serais venu avec grand plaisir. Bon, là, c'est Mme Gazel qui le fait. Ben, je vois pas pourquoi je refuserais. Et si demain, le maire de Saint-Affrique, qui n'a pas la même étiquette politique que la maire de Millau, me propose d'y aller, ben, j'irai avec plaisir, puisqu'il est aussi le président de la communauté de communes de Saint-Affrique. Donc, nous faire ce procès d'intention en disant que j'y étais parce que c'est... sous-entendant que j'y étais parce que c'était Mme Gazel, ça, c'est pas très sympa. Et puis en plus, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Encore une fois, je suis prêt à aller n'importe où, et y compris d'ailleurs avec monsieur le président du Parc naturel régional des Rancos, qui lui aussi doit être signataire. S'il me propose d'y aller, c'est avec grand plaisir que j'irai. Toujours, alors, dans le même ordre d'idée, puisque j'ai toujours joué la clarté, je tiens à ce que les choses soient très claires. Monsieur Nahirak, là aussi, fait état d'argent que nous avons reçu de la commune de Millau. Alors, il a mis des chiffres, je sais pas d'où il sort ces chiffres, mais c'est complètement absurde. Je tiens à être clair, net et précis. Donc, en 2017, la commune de Millau nous a effectivement subventionné à hauteur de 1 500 euros. En 2018, 1 500 euros, oui. 1 500 euros aussi. En 2018, je vais ajouter, parce que je rends toujours à César ce qui appartient à César, que M. Saint-Pierre nous a fait obtenir le reliquat du solde de l'association de préfiguration de Sijan 2, puisque cette association a été dissoute, et ça pour un montant de 3 856 euros. En 2019, nous avons refusé dans un premier temps la subvention de 3 000 euros de la mairie de Millau, parce qu'en fait, elle ne correspondait pas du tout à ce que nous demandions depuis 3 ans et qui nous permettait d'obtenir un emploi et demi. À la suite, et parce que les élections approchaient, il est vrai qu'on nous a proposé 10 000 euros et qu'on a accepté. Mais ceci dit, je viens de donner des chiffres précis, clairs, et j'invite M. Nahirak, s'il le souhaite, à vérifier tous ces chiffres. Voilà.
Ok, bon, bah, en tout cas, c'est entendu ici. Finalement, maintenant, vous avez donc pu salarier quelqu'un ?
Alors, pour le moment, nous avons salarié effectivement quelqu'un. Nous sommes actuellement sur notre bas de laine, on va dire, puisque sur l'argent promis, nous avons réussi à toucher sur l'argent promis 10 000 euros qui sont arrivés il y a quelques jours de la région Occitanie, qui donc a pris des dispositions spéciales pour aider les associations. Ces dispositions sont en relation, bien entendu, avec la crise sanitaire. Et donc, pour le reste, tant que la fameuse convention n'est pas signée par tout le monde, et tant que toutes les collectivités n'ont pas délibéré, puisqu'il en reste encore deux, le Parc naturel régional des Grands Corses et la communauté de communes de Sainte-Afrique, nous ne pourrons rien toucher. Donc il y a pour nous effectivement urgence. Je sais qu'il est prévu que ces deux collectivités signent ces conventions, et ça j'en suis particulièrement heureux, puisque je l'ai appris dernièrement aussi à la mairie de Millau. Moi je leur avais écrit à la fois au président du parc et au président de la communauté de communes de Sainte-Afrique. Ils ne m'avaient pas répondu, mais finalement, on m'a signalé qu'ils allaient prendre des délibérations, et à la suite de ces délibérations, ils pourront m'inviter, s'ils le souhaitent, à signer la convention, comme l'a fait donc la mairie de Millau.
Voilà, donc juste pour rappeler que bon, des centres de sauvegarde, il en existe un petit peu partout en France, et que, comme vous dites, ça repose vraiment sur la responsabilité des collectivités.
Alors, vous savez, les centres de sauvegarde, ils s'occupent avant tout des animaux sauvages, de leurs difficultés, et donc ils participent activement au maintien de la biodiversité. Une biodiversité qui est en danger, qui en a bien besoin, et puis aussi ils contribuent à apporter aux gens qui ont besoin de ces centres de sauvegarde les réponses pour ce qu'ils doivent faire lorsqu'il y a un animal en détresse. Alors ces gens, bien sûr, ces gens qui récupèrent des animaux, il est évident qu'ils n'ont aucune... Je l'ai toujours dit, ça aussi. Ils ne sont ni de droite ni de gauche. Ils sont hommes, ils sont femmes, ils sont de toute couche sociale, de toute audience politique ou religieuse. Et puis ils se foutent complètement de la politique. Ce qui les intéresse, c'est qu'on s'occupe des animaux. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous espérons bien continuer à faire tout autant que cela sera possible. Grâce aux collectivités, c'est vrai, aux collectivités de tout bord. Voilà.
Justement, je vais rebondir. Avec l'annonce du confinement, comment vous appréhendez cette période ? Est-ce que, avec le bilan du dernier confinement, il y a des changements au niveau des espèces que vous recueillez ?
Alors, c'est vrai que déjà les centres de sauvegarde font partie des structures qui ont le droit de continuer à fonctionner. Ça, c'est le premier point. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupe d'une façon plus générale du bien-être animal et que ce bien-être, ça concerne à la fois les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. Donc, il y a une certaine logique à cela. Et de ce fait, nous pouvons continuer à pratiquer notre activité et à recevoir des animaux. Alors c'est vrai que nous en recevons beaucoup moins, puisque même si nous pouvons nous déplacer ou faire en sorte que les gens puissent se déplacer pour nous amener ces animaux, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et puis après, c'est vrai qu'il y a du... Lorsque la première période de confinement a eu lieu, on s'est aperçu qu'au niveau du comportement de certains animaux sauvages, il y avait des changements, des évolutions. C'est vrai que, d'une manière générale, certains ont récupéré une partie de leur territoire dont ils ne disposaient plus du fait des activités humaines ou du fait que beaucoup de gens se promenaient dans la nature. Donc c'est sûr qu'il y a une incidence. C'est vrai l'homme, d'une manière générale, a tendance à monopoliser les territoires, à supprimer des territoires qui sont d'habitude occupés par les animaux. Et là, ils ont un petit peu repris leurs droits et occupé de l'espace.
Et alors, au niveau des animaux de compagnie, est-ce que, par exemple, vous avez noté, je ne sais pas, peut-être plus d'abandon ?
Alors, nous, les animaux de compagnie, en fait, on ne les récupère pas. Nous, on ne s'occupe que de la faune sauvage. Vous savez qu'au niveau du centre de sauvegarde, on fonctionne dans le cadre d'un arrêté préfectoral de fonctionnement. Nous sommes une installation classée pour l'environnement et on n'a pas le droit de recevoir des animaux sauvages. Par contre, on a assuré un partenariat qui est instauré depuis de nombreuses années avec, d'une part, la SPA de Millau, mais aussi avec, de nombreuses SPA ou structures qui s'occupent d'animaux domestiques et on ne manque pas lorsque c'est nécessaire de se renvoyer la balle et d'intervenir les uns pour les autres. Donc là, j'avoue que pour ce qui est des animaux domestiques, j'aurais du mal à répondre à votre
D'accord.
question.
Non, mais parce que étant donné que vous retrouviez énormément d'animaux, justement, c'était ma question, c'était de savoir si vous en retrouviez et que dans ce cas, vous pouviez les prendre en charge ou finalement, voilà, vous êtes avec un autre organisme et dans ce cas, vous faites le transfert. Donc, c'est ça.
Alors en plus, si vous voulez, pendant la période liée au coronavirus, nous avions signalé à l'époque que nous ne pouvons plus poursuivre notre activité puisque nous ne pouvions plus avoir de salariés et en particulier nous ne pouvions plus recevoir de stagiaires parce que nous n'en avions pas de salariés. Donc nous avons cessé effectivement notre activité pendant 3-4 mois, c'est-à-dire à partir du 22 février jusqu'au 1er juin. Et nous nous contentions de nous occuper des animaux dont nous étions les détenteurs sur la structure et nous occupions de les relâcher. Alors c'est vrai que à ce moment-là, on en a quand même accepté quelques-uns, hein, lorsqu'il s'agissait d'animaux dont le statut est en danger, nous les avons reçus quand même. Mais c'est vrai que nous avons limité notre action à ce moment-là pour faire pression contre les collectivités, puisque début janvier, nous étions encore dans l'attente. Vous voyez, nous devions la convention que nous allons signer, nous devions la signer finalement il y a 6 mois, et puis c'est pas encore fait, puisqu'on attend toujours des délibérations de collectivités. Donc, pour mettre la pression, nous n'avions pas d'autre choix que de fermer, et nous ne pouvions pas, parce que sans aucune garantie, il était difficile pour nous d'embaucher des salariés. Donc, on a eu une période là où on a fermé. C'est un petit peu perturbé le fonctionnement de l'association, c'est vrai. Ceci dit, les mois de juillet et août, nous avons reçu énormément d'animaux, à tel point que nous en sommes actuellement à pas loin de 500 animaux reçus depuis le début de l'année, alors que l'an dernier, nous étions à 570. Donc, on a pratiquement, malgré 3 mois de fermeture, récupéré presque autant d'animaux que l'an dernier.
Ah oui, donc c'est vraiment énorme, quoi.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Sachant que pendant les périodes très actives, juin, juillet, août, ce sont une bonne dizaine d'animaux qui arrivent tous les jours, alors que pendant les périodes un petit peu plus calmes comme maintenant, c'est un ou deux.
Et alors justement, quelles sont les actions que vous faites en ce moment et est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation justement pour la faune sauvage ?
Alors, le rôle qu'on a, et c'est justement le rôle qu'on souhaitait que nous mettions en avant les collectivités dans le cadre de la fameuse convention, c'est un rôle de médiation. Vous savez, actuellement, depuis le début de l'année, maintenant on comptabilise les appels au centre de sauvegarde, ben, nous sommes à peu près entre 7 à 8 000 appels depuis le début de l'année. Donc c'est quelque chose d'énorme, on a des gens qui nous appellent de partout pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire face à un animal en détresse. Nous ne les récupérons pas tous, nous ne récupérons que ceux dont nous jugeons qu'il est nécessaire et qu'ils arrivent ici. Et donc ce rôle-là, c'est quelque chose de très important, c'est de l'information qu'on fait en permanence. Nous avons aussi l'accueil de stagiaires, donc nous recevons plusieurs dizaines de stagiaires par an, et nous formons aussi à l'éducation. Parmi ces stagiaires, nous en avons quelques-uns qui sont des stagiaires qui veulent se spécialiser en matière d'information et d'animation par rapport à la connaissance de l'environnement, donc nous les aidons. Et puis nous avons des opérations ponctuelles. Je pense à une opération que nous allons réaliser bientôt dans les magasins Biocoop, où nous allons pouvoir faire de l'information directement, si les conditions sanitaires le permettent, auprès des clients, ou encore des opérations comme celle que nous allons probablement réaliser avec le Collège de Sainte-Afrique, en direction de classe de ce collège, sur des opérations ciblées en matière de relâcher d'animaux à partir du centre de sauvegarde ou chez des particuliers pour leur donner les meilleures chances de survie. Nous organisons aussi donc des soirées de sorties, de découvertes, soit sur des rapaces, je pense à la chevêche, la chouette chevêche qui est très abondante autour de Millau, soit autour du castor qui lui aussi est présent sur l'ensemble des rivières du sud du département, le Tarn et tous ses affluents.
Et est-ce que vous travaillez, donc, vous l'avez dit plus ou moins, mais on serait curieux de savoir avec quel partenaire vous êtes en collaboration. Peut-être, je pense par exemple à la LPO Grand Causse, qui œuvre elle aussi sur la protection de certaines espèces d'oiseaux. Quel lien vous entretenez avec les organismes locaux ?
Alors, de toute façon, toutes ces associations sont des partenaires. On est très souvent complémentaires. Bon, si je pense par exemple au LPO, pas seulement la LPO Grand Causse ou la LPO de l'Aveyron, mais nous avons par exemple la LPO Tarn qui nous fait parvenir tous les animaux sauvages en difficulté qu'elle reçoit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de... Il y a un centre qui est un tout petit centre dans le Tarn et qui ne peuvent pas s'occuper de tous les animaux qui ont des difficultés. Donc il y a un partenariat, c'est vrai. Ils nous aident aussi pour le transport des animaux jusqu'à la structure. Et par rapport à l'animation, c'est vrai qu'on a un rôle qui est un petit peu identique, sauf que nous, on essaye quand même de se cantonner aux informations qu'on peut donner, soit sur le fonctionnement de notre structure, soit sur des espèces et des études spécifiques qu'on réalise avec nos stagiaires. Donc c'est vrai qu'on ne va pas non plus faire des doublons, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'on est le plus souvent complémentaires et c'est ça qui est important. Il y a aussi d'autres associations, hein. Je pense à Lozère, une de nos associations qui nous aide, elle s'appelle l'ALEP, c'est l'association pour l'étude et le développement de l'environnement à Lozère. Et puis, il y en a d'autres, effectivement. Espèce Buzard, par exemple, sur l'Aveyron. Nous évoluons tous dans le domaine de la protection de l'environnement et nous sommes le plus souvent complémentaires et pas des concurrents.
Merci, Jean-Claude Ostruy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Alors voilà, pour suivre les actualités du centre ou pour vous impliquer, vous pouvez suivre donc le centre de sauvegarde sur la page Facebook. Vous avez une page Facebook, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui.
Donc il y a aussi un site internet, donc c'est centre-secours-faune-sauvage-mio.fr, ou sinon vous pouvez taper
tout
simplement.
C'est exactement ça.
Voilà, c'est ça.
Et puis encore merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dans cette tâche qui nous est commune.
En tout cas, on vous souhaite bien du courage et que, évidemment, le meilleur pour la suite, pour 2021. En tout cas, pour les trois prochaines années, ça a l'air plutôt bien parti.
Tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie.
Merci à vous, Claude Ostruy.
Très bien.
On va faire une courte pause musicale et on écoute le titre qui s'appelle « Le courage des oiseaux » de Dominique A.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne-t-on dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Le courage des oiseaux de Dominique A. Et on passe tout de suite au prochain invité.
L'invité de l'actu culturel.
L'actu culturel.
Sabri Kalkibi, bonjour.
Oui, bonjour Léa.
J'espère que je ne me suis pas trompée dans l'épellation de votre nom.
Absolument pas, donc oui, c'est bien ça.
Bon, mais super. Alors, vous êtes photographe et vous œuvrez notamment pour sensibiliser sur la biodiversité. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter à nos auditeurs?
Alors, ce que je fais, je suis photographe animalier, donc naturaliste, bien sûr, par la force des choses, donc voilà. Et puis... Je parcours un petit peu aujourd'hui la France parce que de photographe, je suis passé à artisan. Et puis, j'ai fondé une association avec une partenaire qui est aussi coprésidente de cette association pour parler un petit peu des problèmes de la biodiversité, des soucis qu'elle rencontre de nos jours. Et puis aussi, de par là, présenter des photos au travers lesquelles on voit la faune, mais aussi son environnement pour... présenter la faune sous un bel aspect et donner plus envie au grand public de préserver tout ça, tout ce qu'il y a, voilà.
Voilà, donc c'est des sujets qu'on va aborder tout au long de cette émission. Alors, pour parler un petit peu de votre spécificité en tant que photographe, donc vous êtes plutôt spécialisé sur la thématique des oiseaux.
Absolument, oui, c'est ça. Les oiseaux de France en particulier. Et aussi, on est arrivé de faire des photos au Portugal, en Espagne et en Allemagne, mais surtout de France.
Alors, je vais poser une question toute simple. Déjà, pourquoi les oiseaux ?
Alors, les oiseaux, parce que pour moi, j'ai un sentiment de liberté quand je les vois et qu'ils me fascinent. Ces oiseaux-là me fascinent autant les migrateurs que les semi-sédentaires et les sédentaires. Donc, tout ça, c'est la beauté de la nature qui est aussi très fragile et qu'il faut à tout prix préserver pour nos petits-enfants et puis pour nous-mêmes, parce que entendre le chant d'un rouge-gorge le matin, il n'y a rien de plus magnifique.
Et d'ailleurs, quand on va sur votre site internet, on découvre vraiment de très belles photographies, donc j'invite vraiment les auditeurs à aller découvrir votre site internet, on donnera les sources à la fin de l'interview. Vous réalisez aussi une tournée de France, comme vous l'avez dit. En ce moment, vous êtes pas loin de Millau, vous étiez d'ailleurs sur la foire d'automne pour présenter votre stand sur les oiseaux et pour parler biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous parler de la démarche dans laquelle vous réalisez ce tour de France et vos objectifs ?
Alors oui, absolument. Donc j'étais à Millau, donc un très beau village, une très belle île qu'on a découvert. Donc c'est à peu près sur la route qu'on a entamée. Ça fait la deuxième année que où je suis en train de faire la tournée de France. Donc ça a commencé par Bordeaux, on est passé par le Haut-Jura, la Vienne, par la suite dans le Var. Et puis aujourd'hui, au jour du confinement, hélas, donc nous nous arrêtons ici encore, dans la région donc de l'Hérault et un peu plus haut en Lozère, donc à peu près par chez vous. Donc la démarche, donc comme je vous l'avais dit, c'est vraiment de sensibiliser le grand public. Donc, on est des petites voix, mais on essaye d'être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la prise de conscience se fait, et heureusement. Donc, et on est là pour un petit peu expliquer les bonnes actions à entreprendre pour protéger ces oiseaux. Donc, c'est ça. Notre but, c'est vraiment ça. Donc, on est une organisation pour la sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je propose 72 photos sous mes stands à chaque fois que j'expose. Rien que pour ça, si ça répond à la question.
Oui, oui, bien sûr. Et ça fait longtemps que vous avez commencé ce Tour de France ?
On est une toute jeune association, hein, donc avant j'étais photographe tout simplement, puis par la suite, par la force des choses, donc je suis passé à photographe naturaliste, j'étudie le comportement des oiseaux pour mieux savoir ce qui se passe dans ce petit monde à plumes, et de mieux anticiper les scènes d'action que vous verrez même sur mes photos dans mon site, et savoir saisir ces moments-là, ces instantanés si vous voulez, qui sont de toute beauté et de les montrer au grand public. C'est à peu près ça. Hein. Donc c'est vraiment comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à avoir créé cette association pour la sensibilisation.
Donc cette association justement, donc qui est Création et Nature, avec la présidente Sylvie Armand, qui est elle créatrice et qui promeut les alternatives et les solutions à la société de consommation. Donc vous faites plein de choses, notamment par exemple des événements pour le nettoyage des déchets dans des espaces naturels par exemple.
Alors tout à fait, oui, c'est ça, c'est d'un commun accord quand on se donne rendez-vous donc sur un lieu d'exposition. Il se trouve qu'on a un ou deux jours de battement avant l'exposition, donc que ce soit un parc expo ou une foire ou parfois même des petites brocantes artistiques aussi, du côté artistique, comme à l'ODEV, donc avec l'organisateur qui nous a un petit peu sensibilisés par rapport à sa ville. Mais les actions, on n'en a pas fait là-bas, on en a fait un peu partout. Donc, on se choisit un petit hectare ou deux hectares pendant ces un ou deux jours où on attend de pouvoir exposer. Et on commence à vraiment ramasser au point de remplir des sacs de 120 litres, hein, carrément 5-6 sacs de 120 litres en déchets que l'on récolte dans les buissons et tout ce qui les aborde des parcs et tout. Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment un point d'honneur que je le fais vraiment avec cette volonté de nettoyer les fourrés et les buissons qui sont un espace de vie de la fauvette, par exemple, ou alors d'autres troglodytes ou de bouscarle de séti quand c'est près d'un ruisseau, ou alors de ramasser des bouteilles de vin, vous voyez, avec ça contient du sulfate et donc du coup ça atteint les martins pêcheurs. Donc voilà, c'est vraiment dans cet engagement là et fait dans ce but là.
Alors donc en ce moment vous êtes sur le territoire. Comment vous avez vécu, vous, l'annonce du confinement? Est-ce que ça a changé certains de vos plans?
Alors, c'est vrai que comme tout le monde, on est un peu pris sur le vif. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? On est là, puis voilà, on prépare d'autres choses. En même temps, on fait de la communication par les réseaux sociaux ou de par nos sites. Voilà, tout ce qu'on fait pas quand on n'a pas le temps et quand on est en exposition.
Et donc, vous avez des projets en cours?
Les projets, oui, c'est de voir le bout de la... de, comment dire, le bout de ce confinement arriver et de pouvoir redémarrer notre activité autant artisanale qu'au sein de notre association. Donc, voilà, parce qu'on est vraiment très impacté et que c'est important de continuer... à faire ce qu'on a entrepris depuis le début.
Et donc, on en a parlé tout à l'heure, donc vous avez également un stand que vous déballez à différents endroits. Donc on a pu d'ailleurs vous découvrir à Millau, à l'Odève et à Montpellier, il me semble. C'est bien ça?
Oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce que vous présentez dans ce stand exactement?
Alors moi, je présente 72 photographies artistiques, hein, sur le plan artistique de la faune de France. C'est surtout les oiseaux, mais il peut s'y glisser parmi ces photos-là, peut-être une fouine ou alors un brocard ou un ragondin. Ou, voilà, tout ce qui est saisissable au moment où je prends les photos, ben, je fais avec ce qu'il y a parce que c'est important.
Super. Eh bien, merci Sabri.
Oui.
Donc pour suivre votre travail, vous avez un site internet donc qui est www.clibisabriphotographie.com où on découvre vraiment donc tout ce que vous faites, mais pas seulement. Il y a aussi des pétitions où vous invitez les gens à signer. Je pense au travail de d'autres photographes, par exemple la photo de Laurent Houtan dans l'eau de Jaya Prakash Yogi Bohan qui alerte donc sur la déforestation liée à l'huile de palme. Donc finalement sur ce site internet, c'est un endroit que vous utilisez pour partager donc sur les thématiques liées à la dégradation de la biodiversité.
Tout à fait. Et au travers notre groupe, donc qui est un groupe officiel de notre association, qui s'appelle Faune en souffrance, donc qui existe sur Internet, donc sur les réseaux sociaux de Facebook, et où on signe des pétitions, où on essaye d'alerter, on essaye de faire l'essentiel. Voilà. Donc par rapport à ça.
Et aussi donc pour suivre l'association Création et Nature, donc et avec. Le symbole, c'est ça. Donc, il y a une page Facebook, donc Création et Nature, que vous pourrez découvrir à ce moment-là.
Tout à fait, c'est ça. Après, moi, je vous avais préparé juste un petit rédigé. Donc, c'est un petit rédigé de 3 minutes par rapport à notre combat, par rapport à ma façon personnelle de voir les choses. Et, voilà, s'il y a du temps, avec plaisir.
Bien sûr, on vous écoute.
D'accord, donc voilà. Je partirai sur ça. Donc je dirais que nous sommes à l'échelle de la société une majorité ayant un pouvoir destructeur de la planète. Donc ça peut être de manière inconsciente, bien sûr, hein, et une minorité actuellement grandissante, heureusement, a entamé un chemin de croisade pour la préserver. Donc j'entends par destructeurs à la surconsommation excessive de produits liés à la grande consommation et qui eux-mêmes engendrent systématiquement une suractivité de la grande production d'articles plastiques, bien sûr, de papier aluminium, de la déforestation en faveur de la culture d'huile de palme et de soja, et j'en parle d'ailleurs sur mon groupe, pour les bovins, mais aussi donc l'utilisation abusive. Ça peut aller des grosses cylindrées, bien sûr, c'est des SUV pour ne pas citer qu'eux, mais bon, voilà. Il y a des gens qui font des distances ridicules pour aller faire leurs courses. Donc, les émissions de CO2, on n'en voit pas le bout. Donc, à ceci s'ajoute bien sûr les croisières ou encore les produits phytosanitaires, les pesticides, dont notamment ceux nouvellement réautorisés pour la culture de la betterave, les herbicides dans les jardins et certains produits générant des gaz à effet de serre, bien sûr, et qui font que le climat est très, très impacté. Donc, tout ça, ça se répercute sur les nappes phréatiques, ils alimentent les rivières et les ruisseaux, mais aussi les océans. Alors, tout cela engendre la fonte du permafrost qui impacte le Gulf Stream, et la boucle est bouclée, car on aboutit aujourd'hui à un réchauffement climatique accéléré qui ne date pas d'hier, mais qui a démarré 2 siècles auparavant, quand a commencé l'ère industrielle. De ce fait, les espèces animales, et particulièrement les oiseaux, qui en payent un lourd tribut, n'ont pas eu le temps de s'accoutumer à la violence du changement climatique, bien sûr, et ceci rajouté à l'expansion humaine sur les territoires jusqu'alors vierges suite à la surpopulation mondiale, fait que c'est l'un des principaux facteurs de la 6e extinction des vertébrés marins et terrestres que l'on constate et que l'on observe actuellement. Voilà, ce n'est plus une étude, mais aujourd'hui, on est vraiment dans le mur. Donc, parmi ces éléments destructeurs de notre biodiversité, on peut aussi citer, bien sûr, l'évolution des technologies. Et là, je parlerai principalement de la 5G, parce que c'est le débat du moment, et qui est une véritable arme de destruction massive de la biodiversité de base, et notamment celle des pollinisateurs. Donc, on sait qu'à ce jour, 75% des insectes auraient disparu en Suisse avec 163 espèces considérées comme éteintes. On peut rappeler que la Suisse, en 2020, possède déjà plus de 3000 antennes 5G. Donc, les ondes de la 5G peuvent atteindre les 120 GHz, alors qu'on sait qu'à partir de 10 GHz seulement, la température corporelle des insectes augmente. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Pour résumer, nous sommes aujourd'hui donc au pied du mur avec une planète qui, dans l'idéal, bien sûr, devrait accueillir 3 milliards d'êtres humains, alors qu'elle en gère actuellement 7,8 milliards. Donc voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est, je pense, l'élément majeur de ce problème que l'on rencontre. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bah merci à vous en tout cas pour ce texte. Hein. C'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on apprécie avoir des invités comme vous qui voilà qui parlent, qui donnaient des chiffres, qui expliquaient ces causes-là qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Donc voilà, j'invite les invités à retrouver votre travail sur votre site internet. D'ailleurs, on mettra tous les liens sur le podcast de cette interview quand il sera en ligne sur le site internet de Radio Larzac. Voilà. Merci
d'accord,
à
vous. Je vous remercie du temps d'antenne à accorder.
Mais c'est avec grand plaisir. On vous remercie, Clibi Sabri.
Voilà, merci Léa, merci beaucoup.
Et on va se faire une pause en musique avec le titre Passion triste du rappeur Douskawa.
De J.E.J. K.O. Freestyle. C'est quoi qu'on tease? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Dans l'anonymat des mégapoles, on se demande pas pourquoi les gars collent des IF, pourquoi picolent les IF. C'est pas ce qu'agent, c'est pas si drôle ici, les gens qui s'aiment s'ignorent. Et gros, c'est mort. On n'écoute plus vos conseils, mais le requiem des rossignols. Le capitalisme a tout détruit, uniformisé les boutiques. On se croit libre et différent, consommant de la pensée unique. Des murmures de vie morcelés, pour s'amuser c'est que morceau. Et je vois un miroir que dans le regard, les statues du musée d'Orsay. Dans nos poumons c'est Tchernobyl, et dans nos têtes c'est Fessenheim. Je donne pas trop cher de nos vies, de toute façon j'ai plus un flèche sur moi. Mais les regrets, pour l'humanité, pas un atome. Parce que d'après le progrès, c'est du porno sur les smartphones.
Et il n'y a plus de dialogue, c'est pas l'heure de parler du cœur. Moi je crois qu'il n'y a plus que le radiologue qui voit nos beautés intérieures. Dans ma tête je revois la scène que ceux qui s'aiment s'égorgent. On tourne les canons d'Avicenne contre les fusils de Tchekhov. Je sais bien ce que les passants disent et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Je sais bien ce que les passants disent et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas ce que t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Des passions tristes. C'est quoi qu'on tise? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Nos âmes voudraient un temps pour elles, on prend des fuites intemporelles. C'est impossible de réussir et pourtant on se retente la belle. Mais de toi tu peux pas t'enfuir, choisir la vie sans contrainte. Tu verras que vivre de loisirs va engendrer d'autres problèmes. Le temps qui passe est un défi qui nous suicide à petits fils. Il met des rides à ceux qu'on aime et fait chuter les seins des filles. La famille n'est plus qu'un concept qu'on qualifie du Moyen-Âge juste pour légitimer le fait des enfants brisés qu'on partage. Y'a de l'orage dans le patio comme si passait le golem de Prague. On se dit adieu comme des agneaux que l'on emporte le jour de Pâques. Tu battras pas tes vieux fantômes, au pire tu les gardes à distance. Mais lorsque la fatigue arrive, tu sens s'abaisser tes défenses. T'aimerais bien ranger ton épée, t'endormir au bord de la rive. Mais si t'as pas déclaré la paix, l'armée des manches morts arrive sans être moraliste. On meurt aussi près des lagunes. La seule façon de gagner la guerre, ce serait de se dire que c'en est pas une. Je sais bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles, mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. C'est bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas ce que t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles, mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes.
Ouais,
des passions tristes. C'est quoi qu'on tise? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. N'y a pas d'ambulance qui puisse où je suis venir me prendre là dans mon monde imaginaire où les petites douleurs sont bruyantes mais les grandes ne savent que se taire. Je vais peut-être y aller maintenant, mais dis-moi mon ami, est-ce que j'habite Shutter Island? On se purifiera pas dans le Gange, quel monde étrange. Au lieu d'esquiver la noyade, on nous a appris le saut de l'ange. Une négation de l'individu, un déni des personnalités. La société crée des souffrances indues dont personne n'a idée. C'est pas pour la santé publique, moi j'ai compris comment ça marche. Ça s'appelle produit illicite. Lorsque l'État se fait pas de marge, quel monde de barge, on vole des veaux à leur maman pour prendre le lait de ces dernières afin de le revendre à des gens pour qui ça n'est pas nécessaire. La boîte de Pandore mérite-t-elle que l'on en referme le couvercle? On est des êtres spirituels, mais on est prisonniers d'un cercle. Accepte qui tu es, détache-toi des gens toxiques. Car même si le vide leur en place pour détruire les patients tristes, faut regarder le vide en face. Et lorsque ce monde te malmène, t'apprends le désamour de toi. N'oublie jamais qu'on est quand même des très belles poussières d'étoiles.
Passion triste du rappeur 12 Kawa. Et c'est ainsi que nous terminons cette émission d'Actu sur un plateau. Merci à tous nos invités, enfin à nos deux invités de ce plateau, donc Jean-Claude Ostruy du Centre de sauvegarde régionale de la faune sauvage Cosnard et Sabri Klibi, photographe, artiste, compositeur naturaliste qui est en itinérant sur le territoire jusqu'à décembre. Merci à Brice, à la technique bien sûr. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 19h sur les ondes où vous pouvez vous rendre sur le site de radiolarzac.org dans la rubrique Actu sur un plateau pour écouter le podcast. Sinon, on se retrouve dans 15 jours, même heure, pour la prochaine émission d'Actu sur un plateau avec de nouveaux invités, bien sûr. Et on se dit à très bientôt sur Radio Larzac.
L'Actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.